Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette série exceptionnelle et de la plus haute importance, la sainteté. Nous arrivons aujourd'hui à l'étude numéro 18. Nous aurons deux petits thèmes. Premièrement, la sainteté et notre volonté. Deuxièmement, des habitudes de sainteté. Mais revenons donc à notre étude première partie, la sainteté et notre volonté. Il est dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, notez bien les indications bibliques, parce que tout se trouve dans la Sainte Bible. Ce ne sont pas du tout des théories particulières. Donc il est dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Et dans ma version allemande, il est dit selon son bon plaisir. Dans tout ce qui a été dit jusqu'ici, au sujet de notre responsabilité dans la sainteté, cela nécessite d'une conviction et d'un engagement, cela nécessite de la persévérance, et surtout de la discipline. Et on en revient toujours à la volonté et la discipline. La sainteté du corps et de l'esprit, donc, l'exercice de notre volonté, elle est toujours impliquée. C'est en fin de compte notre volonté qui nous fait choisir soit de pécher, soit d'obéir. En effet, c'est la volonté qui choisit de céder à la tentation ou non. C'est donc finalement notre volonté qui détermine notre destin moral, notre caractère et notre conduite. Vous pouvez, il est donc d'une importance cruciale, de comprendre comment fonctionne notre volonté, les facteurs qui la déterminent à se tourner dans une direction ou dans une autre, et qui motive ses choix. Et par-dessus tout, nous devons apprendre comment amener notre volonté à se soumettre et à obéir à la volonté de Dieu sur une base concrète, quotidienne, heureux, on peut dire, de pouvoir le faire pendant tout le reste de notre vie. Eh bien, vous savez, croire cela ou pas, c'est à vous, c'est votre libre choix. Chers amis, pour comprendre le fonctionnement de notre volonté, dans la Bible, le mot « volonté » désigne toutes les facultés de l'âme qui nous font faire le bien ou le mal, l'esprit, les sentiments, la conscience et la volonté. C'est Dieu qui a placé tous ces éléments dans l'âme de l'homme. Mais ils ont été corrompus par la chute dans le jardin d'Éden. Notre raison ou notre entendement a été obscurci, selon Éphésiens chapitre 4, verset 18. Nos désirs ont été embrouillés, selon Éphésiens chapitre 2, verset 3, et notre volonté pervertie, selon Jean chapitre 5, verset 40. Donc, heureusement que par la nouvelle naissance, notre raison est à nouveau éclairée. Nos affections et nos désirs sont remis sur la bonne voie et notre volonté subjuguée. Cette transformation, elle est vraie, mais elle n'est pas toujours immédiate. Ça se fait pas en claquant des doigts. L'expérience montre qu'elle est un processus graduel. L'apôtre Paul nous exhorte à renouveler notre intelligence, selon Romains chapitre 12, verset 2, à chercher les choses d'en haut, selon Colossiens chapitre 3, verset 1, et Jacques nous invite à soumettre notre volonté à Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 7. Quand Dieu a créé l'homme, raison, sentiment et volonté agissaient en parfaite harmonie. La raison frayait la voie en comprenant la volonté de Dieu, la volonté de l'homme s'y soumettait et les sentiments se réjouissaient de l'accomplir. Mais lorsque le péché est entré dans l'âme humaine, ces trois facultés ont commencé à s'opposer l'une à l'autre ainsi qu'à Dieu. La volonté, elle est devenue têtue et rebelle, refusant de faire ce que la raison sait être la volonté de Dieu. Ou plus généralement, les sentiments ont pris le dessus pour éloigner à la fois la raison et la volonté de l'obéissance à Dieu. Notre propos est donc de souligner et de nous aider à comprendre la corrélation entre la raison, les sentiments et la volonté. Bien que la volonté détermine nos choix finaux, elle est influencée dans ses choix par d'énormes forces qui pèsent sur elle. Ces influences, parfois irrésistibles, elles ont une origine très diverse. Tantôt ce sont les suggestions subtiles de Satan et du train de ce monde, Éphésiens chapitre 2, verset 2, ou ce sont les séductions de notre nature pécheresse, selon Jacques chapitre 1, verset 14. Tantôt, ça peut être la voix insistante de notre conscience. Ce sont les ardentes injonctions qui peuvent être ou venir d'un ami intime ou la douce voix de l'Esprit Saint. Mais, quelle que soit l'origine de ces forces instantanées, elles atteignent notre volonté à travers la raison ou à travers nos sentiments. Et c'est pourquoi nous devons veiller, et comment, à ce qui pénètre dans notre esprit et à ce qui influence nos sentiments. Le célèbre Salomon, il a dit « Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui, dépend les limites de la vie. » Proverbe chapitre 4, verset 23. Si nous surveillons de près notre esprit et nos sentiments, nous verrons l'Esprit Saint travailler en nous pour rendre notre volonté conforme à la sienne. Philippiens chapitre 2, verset 12 et 13. Mais comment pouvons-nous garder notre esprit et nos sentiments? Eh bien, David a dit, Voyons, comment un jeune homme aurait-il une conduite toujours pure? C'est en prenant garde selon ta sainte parole. Psaume chapitre 119, verset 9. Il veille, Dieu notre Père, il veille sur ses pas, toujours grâce à la sainte parole de Dieu. La Bible nous parle en premier lieu à travers notre raison, et c'est pourquoi il est si important de soumettre constamment notre esprit à son influence. En matière de sainteté, il n'y a absolument aucun raccourci qui contourne ou qui néglige cet apport régulier de la Sainte Bible. Salomon affirme que la sagesse, la connaissance et la réflexion nous garderont de la voie du mal. Proverbe chapitre 2, versets 10 et 12. Ce sont donc là des attributs de l'esprit. Comment les acquérir? Eh bien, c'est gare, car c'est le Seigneur. Oui, c'est lui. C'est lui qui donne la sagesse de sa bouche. Viennent également la connaissance et la raison. Je répète, c'est le Seigneur qui nous donne la sagesse. Il la donne de sa bouche, et de sa bouche viennent toutes les connaissances et la raison. Proverbe chapitre 2, verset 6. C'est donc Dieu notre Père. Et à qui accorde-t-il ces qualités-là? Eh bien, c'est à celui qui reçoit ses paroles, qui garde précieusement ses commandements, qui rend son oreille attentive à la sagesse et qui incline son cœur à l'intelligence, à celui qui prie, oui, également à celui qui prie pour le discernement, pour recevoir le discernement et la sagesse, et qui cherche en même temps l'intelligence comme si elle était un trésor caché. Nous est-il dit dans le Proverbe chapitre 2, verset 1 à 5. Une lecture même très superficielle de Proverbe chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12, notez bien, eh bien cette lecture vous convaincra de ce que l'influence protectrice de la sainte parole de Dieu est vraiment le résultat d'une étude diligente et réfléchie des saintes écritures dans une attitude de prière. Pour garder notre esprit aligné sur Dieu, eh bien nous devons accorder la priorité à la Sainte Bible dans notre vie, non seulement pour les informations spirituelles qu'elle nous donne, mais aussi pour son application quotidienne à notre situation actuelle. Il faut donc garder notre esprit, mais également nos sentiments. Et pour ce faire, il vous sera utile de savoir que si Dieu fait le plus souvent appel à notre volonté par la voie de la raison, le péché et Satan s'adressent généralement à nous à travers nos désirs. Je répète, il vous sera donc utile de savoir que si Dieu fait le plus souvent appel à notre volonté par la voie de la raison, le péché de Satan s'adressant généralement à nous à travers nos désirs. Donc, parfois, je vais répéter certaines phrases. Non pas parce que vous ne comprenez pas du premier coup, au contraire. Vous êtes tous dix fois plus intelligents que moi. Mais il y a une minorité de personnes qui, comme moi, ont eu ce qu'on appelle aucun bagage intellectuel, presque pas d'école du tout, et il y a une minorité ainsi qui existe, et c'est pour eux que je vais donc, ou plutôt que le Saint-Esprit me montre quand il faut que je dise une phrase une deuxième fois. C'est donc pas du tout pour vous, en général, je le répète, qui avez fait des hautes études, contrairement à moi. Chers amis, le diable, il ne répugne certainement pas à attaquer notre raison, et cela pour semer le désordre et pour brouiller les cartes. Mais ce n'est que pour mieux pouvoir nous vaincre, et cela par nos désirs. Et oui, telle est donc la stratégie habile qu'il a employée avec Ève. Notez la Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. L'ennemi s'est attaqué directement à sa raison en mettant en doute l'intégrité de Dieu, mais il cherchait essentiellement à tenter surtout son désir. Nous lisons du reste que Ève a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger, séduisant, à regarder, et surtout précieux pour agir avec clairvoyance. Genèse chapitre 3, verset 6. Sachant que les attaques de Satan visent premièrement nos désirs, nous devrions donc surveiller ceux-ci avec beaucoup d'attention et les soumettre constamment à l'influence de la sainte parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'ascétisme, mais il s'agit de prudence spirituelle tout simplement. Chacun d'entre nous devrait donc prendre conscience de la façon dont le péché nous attaque. Oui, la façon dont le péché peut nous attaquer, par la voie surtout de nos désirs, et de prendre ainsi, nous devons prendre ainsi des mesures préventives. Ça, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, quand il a dit « Fuis, prends les jambes à ton cou, fuis les passions de la jeunesse. » 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Mais, pour nous garder de nos désirs, il faut plus qu'une bataille d'arrière-garde et de défensive contre les tentations de ce monde, de la chair et du diable. Car il y a toute une chose importante qui est en jeu. C'est aussi notre chair, ainsi que l'ennemi. Nous devons donc être sur notre défensive, sur nos gardes, contre toutes les tentations que ce monde nous offre. Dans ce cas-là, il faut prendre l'offensive. Je répète, dans ce cas-là, nous devons prendre l'offensive. Nous devons nous battre. L'apôtre Paul nous recommande de nous affectionner aux choses d'en haut, autrement dit, aux valeurs, vraiment, aux valeurs spirituelles. Colossiens chapitre 3, verset 1. Le psalmiste, il nous encourage à trouver notre plaisir dans la loi de Dieu, selon le psaume chapitre 1, verset 2. Et le prophète, il dit, au nom de Jésus, mon Dieu, je veux faire vraiment ce qui te plaît. Psaume, chapitre 4, verset 8. Nous voyons donc que nous devons placer nos désirs dans les choses spirituelles et nous devons trouver nos délices dans la loi et dans la volonté de Dieu. Et nous voici donc de retour à la case départ. Nous avons de nouveau la discipline qui vient à l'aide d'un plan structuré. Normalement, notre raison, notre volonté et nos sentiments devraient intervenir dans cet ordre-là. Mais puisque nous agissons si souvent à l'inverse, en prêtant attention à nos désirs, nous devons chercher à conformer ceux-ci à la volonté de Dieu. Et oui, c'est important. En complément des instructions et des directives qu'elle donne pour notre vie, la Sainte Bible, elle est également remplie d'histoires de personnes absolument réelles, hein, pas du tout fictives, oh non, des personnes réelles qui ont fait confiance à Dieu notre Père et qui lui ont surtout obéi et dont la vie ainsi a été radicalement changée ou qui ont marqué l'histoire également de leur influence. Le 11e chapitre de Hébreux nous donne une liste très brève et partielle de ces personnages-là. Elle est loin, évidemment, d'être exhaustive, comme l'auteur des Hébreux le reconnaît lui-même. Hébreux chapitre 11, verset 32. Les exploits d'hommes, tels que notés Daniel, Néhémie, Élie, Abraham, Noé et David, peuvent nous inciter à faire de même. Nous ferions donc bien d'inclure constamment les récits de ces hommes-là dans notre lecture de la Bible, afin de nous motiver pour une vie de sainteté. Alléluia. En plus des Saintes Écritures, il est bon de s'intéresser aux quelques classiques de la littérature chrétienne qui nous incitent vraiment à mener une vie de sainteté et de piété. Il y en a probablement pas plus d'une demi-douzaine qui atteignent cet objectif-là et que nous devrions vraiment relire sitôt que nous pouvons. Voyez-vous, l'idée fondamentale, elle consiste à avoir un plan, par exemple, une approche disciplinée qui va nous rendre capables de demeurer motivés pour la sainteté. Je répète, l'idée fondamentale consiste donc à avoir un plan, par exemple, une approche disciplinée qui va pouvoir permettre de nous rendre capables de demeurer motivés pour la sainteté. En fin de compte, c'est Dieu, oui, c'est Dieu notre Père, qui produit en nous le vouloir et le faire, et tout cela selon son bon plaisir. Mais l'apôtre Paul nous recommande expressément d'y consacrer tous nos efforts. Philippiens chapitre 2, verset 12. Donc, notre responsabilité quant à notre volonté est de garder notre esprit et de garder nos sentiments. C'est d'avoir conscience de ce qui influence notre raison et qui stimule nos désirs. Si nous accomplissons la tâche qui nous incombe vraiment, eh bien nous verrons l'Esprit de Dieu accomplir la sienne et nous rendre beaucoup plus saints. Vous pouvez me croire, c'est vrai. Nous arrivons à la deuxième partie de notre étude, des habitudes de sainteté. Il est dit dans Romains, au chapitre 6, verset 19, « De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et du désordre qui conduisent à la révolte contre Dieu, mettez-les maintenant au service de la justice qui, elle, conduit à la sanctification. » Ça, c'est une vérité incontournable, car plus nous péchons, plus nous avons tendance à pécher. C'est vraiment une vérité incontournable. Le révérend John Owen, un grand théologien, il exprime ainsi cette idée dans son style. Il dit « Des actes répétés de consentement de la volonté au péché peuvent engendrer une inclination et une prédisposition de cette volonté allant jusqu'à l'empressement, c'est-à-dire à l'empressement, excusez-moi, c'est-à-dire, on pourrait dire un autre mot, allant jusqu'à nous obliger à pécher à la moindre sollicitation. Donc chaque péché que nous commettons, va donc renforcer l'habitude de pécher et ainsi va faciliter le prochain péché. Il me semble que c'est clair comme de l'eau de source. Au CD précédent, nous avons invoqué l'importance de surveiller notre esprit ainsi que nos sentiments, puisque ce sont les canaux par lesquels les différentes forces intérieures atteignent notre volonté. Mais il est également important de comprendre la façon dont nos habitudes influent ou influencent sur notre volonté. Le fameux dictionnaire américain Webster's, il définit l'habitude comme étant la prédisposition dominante ou le caractère des pensées et des sentiments d'une personne. Les habitudes constituent donc le paysage des pensées ainsi que des émotions qui sont et qui vont être gravées dans notre esprit, et elles vont influencer autant, sinon encore beaucoup plus, nos actes que nous allons donc exécuter. Je répète, les habitudes constitue ainsi le paysage de nos pensées ainsi que de nos émotions qui vont être gravées dans notre esprit. Et elles vont donc ainsi influencer autant, sinon même plus, nos actes que nous risquons d'exécuter. Voyez-vous, toute convoitise est une habitude ou une disposition dépravée qui va nous incliner continuellement, ainsi que nos cœurs, à faire le mal. Donc toute convoitise que nous trouvons sur notre chemin va devenir une habitude et une disposition complètement dépravée qui va incliner continuellement nos cœurs à faire le mal. Donc en tant qu'incroyants, nous nous sommes livrés autrefois à des habitudes d'iniquité. C'était également mon cas. Ce que du reste l'apôtre Paul appelle de livrer nos membres comme esclaves à l'iniquité. Il le dit dans Romains chapitre 6, verset 19. Donc chaque fois que nous péchons, soit par la luxure, soit par convoitise, soit aussi par haine, ou par malhonnêteté ou mensonge, eh bien nous allons développer des habitudes d'immoralité. Et ces actes répétés, on peut dire, ce sont quand même des actes d'iniquité, sont devenus en nous des habitudes qui ont bel et bien fait de nous des esclaves du péché. Et je répète, c'était mon cas autrefois. Mais à présent, nous déclare l'apôtre Paul, comme nous, nous sommes livrés naguère autrefois à des habitudes iniques, ainsi nous devons nous consacrer maintenant, aujourd'hui, à acquérir des habitudes de sainteté. Notez Romains chapitre 6, verset 19. Nous devons donc nous dépouiller de notre ancien être, de nos dispositions anciennes et de nos habitudes de péché. Et nous devons nous revêtir maintenant, aujourd'hui si possible, de notre nouvel être, avec son caractère et avec ses habitudes de sainteté. Gloire à Dieu. S'exercer à la piété, selon 1 Timothée chapitre 4 verset 7, cela consiste à discipliner et à structurer notre vie pour l'adopter ou pour adopter de bonnes habitudes. Je répète, s'exercer à la piété, selon 1 Timothée chapitre 4 verset 7, cela consiste à discipliner et à structurer notre vie pour adopter de bonnes habitudes. Se débarrasser des habitudes de péché, c'est ce que l'apôtre Paul appelle faire mourir son comportement charnel. Romains chapitre 8, verset 13. Bien que invité à venir à bout de ses habitudes d'iniquité, nous ne devons pas nous y essayer uniquement par nos propres forces. Car par nos propres forces, en serrant les dents, nous allons certainement pas y arriver du tout. Le renoncement aux habitudes mauvaises n'est possible ou va être possible que en coopération avec l'Esprit Saint et dans sa dépendance. Je répète, le renoncement aux habitudes mauvaises n'est possible que en coopération avec l'Esprit Saint et avec ou dans sa dépendance. Prendre donc la résolution, ça, c'est la dernière fois que cela va m'arriver, je ne le referai plus jamais à partir d'aujourd'hui. Eh bien, une telle résolution fondée sur la seule détermination humaine, selon ma propre volonté uniquement, cela n'a jamais permis de briser les chaînes du péché. Il y a cependant des principes pratiques que nous pouvons suivre pour nous exercer à la piété. S'il vous plaît, écoutez bien la suite. Le premier, c'est qu'on acquiert et qu'on renforce une habitude par une fréquente répétition. Le petit Robert définit ainsi l'habitude. Le petit Robert dit, c'est une manière de se comporter et d'agir individuelle, fréquemment répétée. Nous avons déjà noté que plus nous commettons des péchés, plus nous sommes enclins à continuer de pécher. Mais, gloire à Dieu, l'inverse est aussi vrai et possible, car plus nous disons non au péché, plus nous sommes enclins à lui résister. Ça vaut la peine de répéter. Plus nous allons dire non au péché, plus nous allons être enclins à pouvoir lui résister. Par conséquent, tout en comptant sur l'Esprit Saint, nous devons systématiquement nous efforcer d'adopter l'habitude de dire tout simplement non au péché dans lequel nous nous enferrons si facilement. Nous savons tous très bien quels sont les péchés auxquels nous sommes particulièrement vulnérables. Alors, commençons simplement par dire non à cela. Voyez-vous, Dieu nous conduira à nous attaquer. Il nous aidera, croyez-moi, c'est vrai. Il nous aidera et il nous conduira à pouvoir nous attaquer à d'autres péchés dont nous ne sommes peut-être même pas conscients à l'heure actuelle. Plus nous réussissons à dire non à nos désirs pécheurs, plus il deviendra facile d'acquérir l'habitude de résister. Je répète, plus nous allons réussir à dire non à nos désirs pécheurs, plus il deviendra donc facile de pouvoir acquérir l'habitude de pouvoir y résister. De même, nous pouvons acquérir des habitudes positives de sainteté concernant les pensées pures, les pensées vraies et bonnes, telles que la prière, telles que la méditation évidemment des saintes écritures. Ces habitudes ne peuvent se développer qu'au moyen de fréquentes répétitions. Le second principe pour se débarrasser des habitudes iniques, c'est en acquérir d'autres. C'est de ne permettre aucune exception. Sinon, nous renforçons les vieilles habitudes et nous échouons dans le renforcement des nouvelles. Méfions-nous, chers amis, de l'attitude jusqu'encore une fois. Ce sera la dernière. Mais cela est un piège subtil et très dangereux. N'étant pas disposé à payer le prix du non, ainsi qu'à nos désirs, nous nous disons que nous y cédons simplement une dernière fois. C'est la dernière. Mais que demain, ce sera tout différent. Au fond de nous-mêmes, nous savons très bien que demain, il va être encore plus difficile de dire non. Mais nous oublions bien vite cette évidence. Je crois qu'il vaut la peine de répéter. N'étant donc pas disposé du tout à payer le prix du non à nos désirs, de dire non à certains de nos désirs, nous nous disons que nous y céderons une dernière fois. C'est la dernière, croyez-moi, croix de fer, croix de bois, si je mange, je vais en enfer. Par contre, demain, tout sera différent, merveilleux, presque un conte de fées. Mais, au fond de nous-mêmes, nous savons très bien que ce ne sera pas un conte de fées, car demain, il sera encore beaucoup plus difficile de dire non, mais nous oublions bien vite cette évidence-là. Le troisième principe, c'est que la délivrance dans tous les domaines, elle est nécessaire pour assurer le succès dans un seul domaine. Chers amis, sans un effort vraiment sincère et diligent dans tous les domaines d'obéissance, eh bien nous ne réussirons pas à mettre à mort le moindre péché habituel. Je répète, sans un effort qui va être sincère, qui va être profondément sincère, et cela dans tous les domaines de l'obéissance, eh bien nous ne réussirons jamais à mettre à mort le moindre péché habituel. Nous avons peut-être l'impression qu'une certaine habitude n'est pas trop grave. C'est une bagatelle. Mais de lui céder continuellement, eh bien, ça va affaiblir notre volonté en vue des assauts de la tentation quand ils viendront beaucoup d'autres de toutes les directions. Et c'est pourquoi il est donc si important de s'habituer à contrôler ses appétits physiques. Céder à la gourmandise, cela n'a pas l'air d'être un péché très grave, pas du tout. Mais ce caprice va affaiblir notre volonté dans tous les autres domaines de notre vie. Finalement, et nous terminerons notre étude d'aujourd'hui, finalement, chers amis, ne vous laissez pas vous décourager par vos échecs, car il y en aura, il y en a eu beaucoup dans ma vie. Voyez-vous, il y a une différence énorme entre subir un échec et être un raté total. Un raté, c'est quelqu'un qui abandonne carrément la partie et qui ne tente absolument plus rien. Mais aussi longtemps que nous nous attaquons aux mauvaises habitudes, quel que soit le nombre de nos échecs, même s'ils sont plusieurs par jour, nous ne sommes pas des ratés du tout. Et nous pouvons nous attendre à faire des progrès. Il est donc vain, inutile, de garder notre esprit et nos sentiments de ce qui vient du dehors, si en même temps, nous ne combattons pas les habitudes de péché au-dedans de nous. La bataille de la sainteté, elle doit se livrer sur deux fronts, à l'intérieur de nous ainsi qu'à l'extérieur. Ce n'est que dans ces conditions-là que nous ferons des progrès sur la voie de la sainteté. Amen. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Prions tout d'abord ensemble. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous te complantons, oui, nous te contemplons sur la sainte montagne où l'humanité a entendu de ta bouche même les plus hautes paroles, les plus merveilleuses paroles. Et nous voulons aller à toi. Oui, élève-nous jusqu'à toi. Élève-nous jusqu'à la montagne de la sainteté et de la majesté. Ô Seigneur notre Dieu, tu vois dans les profondeurs de notre cœur, tu vois nos pensées les plus intimes qui ne sont pas cachées. Ô Seigneur, tu vois et tu sais très bien dans quelle disposition nous vivons. Oui, tu le sais, dans quelle disposition nous vivons à ton égard et envers le prochain qui se trouve autour de nous, et tu vois tous nos péchés, tu vois notre attirance pour le mal qui nous sépare de toi et de ton royaume. Alors nous te demandons, garde-nous, ô Dieu, garde-nous la grâce et la puissance ton Esprit Saint, pour que nous puissions changer vraiment. Brise notre résistance et notre tendance à nous contenter d'une amélioration toute extérieure seulement, sans loyale repentance, sans être sérieux dans notre repentance, et sans conversion véritable du cœur. Nous voulons aussi être totalement changés, cœur, âme et esprit. Délivre-nous donc de notre propension à toujours remettre la décision nécessaire. Apprends-nous à songer que le jour de ton appel est un jour de salut. Entends-nous, ô notre Seigneur, et donne-nous de nouvelles aspirations et un cœur tout nouveau selon ton désir. Amen. Et chers amis, vous savez que Dieu vous aime. Il aime tous ceux qui ont compris qu'ils avaient besoin d'accepter la main tendue de Jésus pour être sauvés. Eh bien, Dieu vous aime vraiment. Vous pouvez compter sur ce fait que Dieu vous aime. Et il est donc de mon devoir de vous aimer intensément, de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous, que vous soyez auprès ou au loin, et je vous embrasse en vous disant, oui, je vous aime, et soyez bénis dans et par Jésus-Christ. Et maintenant, j'aimerais vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé, 1954, il y a fort longtemps. Parfois il y a des ratés, parfois ça joue pas du tout, mais j'espère de tout mon cœur qu'aujourd'hui ça va fonctionner.
Jordan roll. Oh, Christa zuata binde.
Yes, my Lord.
Sitting the kingdom
to hear Jordan roll, roll, Jordan roll, yeah, roll, Jordan roll. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll.
Oh, helters, what have been there?
Yes, my Lord.
Sitting the kingdom
to hear Jordan roll. Roll, Jordan roll, yeah, roll, Jordan roll. I want to go hear Jordan roll. Roll, Jordan roll, yeah. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll. Roll, Jordan roll, roll, Jordan roll. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll.
It is so high,
so high, you can get low.
It's so wide,
so wide, you can get wide.
It's so low,
so low, you can get down.
You might as well
jump down in at the door.
The gate is high,
so high, you can get low.
The gate is
wide, so wide, you can get wide.
It's so low,
so low, you can get down.
You might as well
jump down in at the door.
Well, I went down in the valley, you know I did, I wanted to stay. My soul could have in the body, you know the feet of the world all day. The gate is
high,
it's
so wide, you can get right.
It's so low,
so low, you can get down.
You might as well
come in at the door.
You laugh, have been to heaven, but I've been told the three hours. You know, the get up close, the get is
hard.
It's so wide, it's so low. You might as well, the get is hard.
My heart.
Well, is
it your soul a wheel of rolling, the great big wheel of darling low? Is it your soul a wheel of rolling, where the mill of the earth? Is it your soul a wheel of rolling, the great big wheel of darling low? Is it your soul a wheel of rolling, where the mill of the earth?
God Almighty, the Bible declares, Ezekiel's on the wheel in the middle of the air. The great big wheel and the little big wheel, the wheel down low in the middle of the wheel. The good book says and the book don't lie, God told Ezekiel to prophesy. The mighty God spoke in Ezekiel's mind, he raised his voice and began to cry.
Be quiet, all bones,
all bones are walking,
with God Almighty the whole bones talking.
Bones, 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 walking every now, bones, bones.
You hear the word of God.
Ezekiel saw the wheel of rolling, the great big wheel of turning low. Ezekiel saw the wheel of rolling, where the middle of the earth.
Well, God told Ezekiel to prophesy, he tried to do it, and that's no lie. God sent the wind from the west and the east, spirit shook him from his head to his feet.
Be quiet,
all bones are walking,
with God Almighty the whole bones talking.
Bones, 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 walking in the bones, bones.
You hear the word of God.
Ezekiel saw the wheel a rolling, the great big wheel a turning low. Ezekiel saw the wheel a rolling, where the middle of the earth.
Well, old Ezekiel tried his best to do the thing the Lord had told him to.
He did his best, that's all he can.
After all, Zeke was a natural man.
Ezekiel saw the wheel a rolling, the great big wheel a turning low. Ezekiel saw the wheel a rolling, where in the middle of the air. Ezekiel saw the wheel a rolling, the great big wheel a turning low. Ezekiel saw the wheel a rolling,
the well, did no Pharaoh get lost?
Get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well, did no Pharaoh get lost?
Lost,
lost in the Red Sea. Well,
get lost,
get lost,
get lost, well, did no Pharaoh get lost,
lost, lost in the Red Sea.
Well, God spoke to Moses as the man
crossed the Red Sea.
Said Moses, go down to Egypt land,
cross the Red Sea.
Just take the rod tight in thy hand,
cross the Red Sea.
Then preach to Pharaoh what I command,
cross the Red Sea.
Well, no Pharaoh get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well,
did no Pharaoh get lost,
lost,
lost in the Red Sea.
Well, did no Pharaoh get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well, did no Pharaoh get lost,
lost,
lost in the Red Sea.
Well, Moses went down in Egypt land,
run to the Red Sea.
He told old Pharaoh what God had commanded,
run to the Red Sea.
My people has been suffering under his hand,
cross the Red Sea.
Said release my children out of Pharaoh's hands,
cross the Red Sea.
Now did no Pharaoh get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well, did no Pharaoh get lost,
lost,
lost
in the Red Sea.
Well, did no Pharaoh get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well, did no Pharaoh get lost,
lost,
lost
in the Red Sea.
He said to the children, this is God's command,
cross the Red Sea.
Now the Lord crossed over in the promised land,
cross the
the Red Sea.
While the water was making such a terrible sound,
cross the Red Sea.
Well, that's when pharaohs only get around,
cross the Red Sea.
Well, then, no pharaoh, get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well,
then, no pharaoh, get lost, lost, lost in the Red Sea.
Well, then, no pharaoh, get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Oh,